embarquez sur le canal de la philo. Une émission proposée par Victor.
Imaginez une chose que personne n'a vraiment envie de faire, qui semble être pour chacun un horizon pénible, mais dont personne ne voudrait être privé. Imaginez une activité dont tout le monde voudrait pouvoir se passer, mais dont tout le monde redoute de manquer. Imaginez une valeur centrale de la société, mise en avant par ses dirigeants, qui provoquerait un nombre croissant de dépressions et de pathologies physiques. Et vous obtenez le travail. Cœur de nos sociétés, source de joie, lorsqu'il est obtenu, lorsqu'il est payé, lorsqu'il s'arrête. Source de souffrance, lorsqu'il est exercé sous pression, lorsqu'il est mal payé, et lorsqu'il s'arrête. Comment un objet aussi paradoxal peut-il avoir une place aussi centrale dans nos vies? C'est ce que nous allons tenter de mieux comprendre dans les prochains épisodes d'Au fil de l'eau.
Au fil de l'eau. Embarquez sur le canal de la philo.
Pourquoi le travail a-t-il acquis une telle centralité dans nos vies? Nous allons voir que le basculement du travail du côté des activités valorisées par la société est en fait très récent historiquement. Reste qu'il correspond peut-être à une aspiration plus profonde, plus générale, à l'activité, pour contrer l'inaction, la fameuse oisiveté, mère de tous les vices. D'où vient cette idée et suffit-elle à justifier le travail? On peut même aller plus loin. Pourquoi faudrait-il toujours justifier le travail? Sans doute parce qu'il est mal né, c'est-à-dire qu'il garde dans les mémoires de notre civilisation un problème originel, un lien très fort avec la souffrance qui n'est pas si évident à gommer. Et pourtant, travailler est toujours préféré à l'inactivité totale que peut signifier le chômage. Alors, il faudra sans doute clarifier ces termes, ainsi que toutes les représentations qu'ils charrient. Mais ce que nous allons interroger aujourd'hui, c'est l'évidence de cette valeur travail, aujourd'hui si fortement affirmée, mais tout aussi fortement contestée.
J'ai une question.
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 Les questions, n'oubliez pas de les poser donc à l'adresse suivante au fil de l'eau @pigouilleradio.fr, donc au fil de l'eau, O-F-I-L-D-E-L-O, @pigouilleradio.fr. Vous pouvez aussi passer par le formulaire contact du site. Voilà, donc ça peut être des questions sur les émissions précédentes, sur des choses pas forcément clair, ou des désaccords même, ou bien ça peut être des questions tout à fait autres, plus générales, voilà. C'est vous qui voyez.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Non, j'écris.
Cette scène mythique de l'immense film « Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard peut nous servir ici de point de départ. Anna Karina marche sur la plage, elle et Jean-Paul Belmondo, donc Pierrot, sont en fuite et se trouvent désœuvrés. Le cadre est idyllique, Belmondo est écrit, Anna Karina ne sait pas quoi faire. Et je pense à cet extrait, moi, dès que je me trouve dans des moments de désœuvrement. Face à l'ennui, il est difficile de ne pas céder au découragement. J'ai déjà cité dans la première émission d'Au fil de l'eau cette superbe phrase de Pascal, de Blaise Pascal, philosophe, mathématicien, physicien, qui affirme la chose suivante: tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Cette phrase est extrêmement, extrêmement célèbre. Dans le texte qui l'entoure, Pascal prend l'exemple des charges militaires que prennent volontairement les nobles à son époque, alors que rien ne les y contraint, qu'ils pourraient tout simplement profiter de leur statut. Et plus légèrement, il évoque la recherche des conversations et du divertissement par les jeux, toujours préférable, selon lui, à la solitude inactive de sa propre maison. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que on est confronté à cette réalité quasi anthropologique d'après Pascal? Eh bien sa réponse c'est qu'il s'agit de ne pas avoir à trop songer à notre condition faible et mortelle, comme il dit, donc à notre finitude, au fait que nous ayons des limites très profondes, et la principale étant la mortalité, évidemment. Et face à cette finitude, eh bien, nous sommes autant impuissants qu'angoissés, l'un étant sans doute causé par l'autre. Alors voilà une première piste d'explication possible à l'importance que notre société donne au travail. Il est notre échappatoire à l'ennui qui se résout immanquablement en angoisse, de laquelle il faut se détourner, c'est ce fameux divertissement pascalien, hein, qui n'est pas le divertissement au sens où on regarde la télé pour se divertir et s'amuser, mais qui est simplement le fait de penser à autre chose, de se détourner hein, de l'idée angoissante de, finalement, de la condition humaine, quoi. Et donc il est bon de travailler pour se détourner de tout ça, et à l'inverse, l'oisiveté, conçue souvent comme le contraire du travail, on aura à revenir peut-être un peu sur ces termes, mais l'oisiveté a bien mauvaise presse, a bien mauvaise réputation, on l'a dit, mère de tous les vices, selon un raisonnement qui pourrait sans doute à peu près être le suivant, sans occupation, sans but clair, on a tout loisir de songer à toutes les tentations, aux principaux péchés capitaux, puisqu'on cède déjà à l'un d'eux, à savoir la paresse. Il y a là tout un héritage un peu religieux hein, derrière cette idée d'une oisiveté mère de tous les vices. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est que cette morale du travail que je viens d'esquisser à grands traits, en réalité, elle est très récente. Elle est très récente dans l'histoire de l'Occident. Ou plutôt, ce qui est récent, c'est qu'elle se soit universalisée, c'est-à-dire qu'elle concerne désormais n'importe qui. Tout le monde, tous les êtres humains. Parce que si on revient quelques siècles en arrière, 3 ou 4, pas plus, ce n'est pas le loisir qui a mauvaise réputation, bah, c'est bien plutôt le travail.
C'est Picouille Radio.
Alors faisons un petit panorama historique des évolutions qu'a connues cette notion de travail, sa perception par la société. Alors comment le travail était-il perçu avant l'avènement massif du capitalisme entre le 18e et le 19e siècle? Eh bien en vérité, il était assez mal perçu. Alors pour le comprendre, on va faire un petit retour en arrière de plusieurs millénaires à la Grèce antique. Vous avez tous entendu parler de la démocratie athénienne, souvent présentée comme l'ancêtre direct de la nôtre. Alors c'est un schéma un peu simplificateur, qui oublie qu'à Athènes, la citoyenneté était très restrictive. Le peuple, ce démos de la démocratie, représentait en fait environ 10% de la cité, puisque en sont exclus les enfants, bon comme chez nous, mais les femmes également, ainsi que les esclaves, qui sont majoritaires dans la population. En fait, le démos est uniquement composé de ce qu'on appelle les hommes libres, qui se définissent par le fait qu'ils ne travaillent pas pour vivre. Ils peuvent avoir une activité, ils génèrent de l'argent, mais cette activité ne définit pas leurs conditions, parce que leur condition, c'est la liberté. Et cette liberté, eh bien, c'est celle de ne pas travailler, contrairement aux esclaves. Et cette liberté, eh bien, c'est la condition pour eux, pour passer du temps sur l'agora, à palabrer, discuter, même faire de la philosophie d'ailleurs, mais aussi faire de la politique. Voilà. Alors dans le domaine des représentations qu'on se fait du travail, la mauvaise réputation du travail va aussi trouver un écho dans la Genèse, et dans l'histoire d'Adam et Ève. Parmi les punitions donc, des premiers humains, pour leur manque de confiance en Dieu, se trouve l'idée d'un travail pénible pour obtenir les fruits de la terre, ces fruits de la terre qui étaient disponibles sans effort dans le jardin d'Éden. Voilà, on retrouve ici l'idée que le travail est une peine infligée. On peut aussi ajouter une des étymologies souvent citées, peut-être à tort, j'y reviendrai un peu plus tard, une des étymologies de ce mot travail qui le fait remonter à un mot latin, tripalium, qui serait un instrument de torture à 3 pieux. Alors là, on voit bien à quel point ça ajoute encore du négatif à cette activité qui, décidément, a bien mauvaise réputation. Entre son association à l'esclavage, son idée de punition, de châtiment pour le péché originel, Cette étymologie de la torture, n'en jetez plus. Hors de question de continuer à travailler. Alors que s'est-il passé pour qu'on en vienne aujourd'hui à affirmer que la valeur travail doit être au centre de la société ? Avant l'avènement du capitalisme, le travail était la condition de survie de l'immense majorité de la population. Comme par exemple les paysans dans le cadre du servage, par exemple. Ou comme les artisans en ville inscrits dans des corporations. Pour les classes dominantes, les seigneurs, les nobles, il n'était pas question de travailler, ni même de glorifier le travail. Éventuellement, on faisait la guerre, c'était l'office principal de la noblesse. Pas question de travailler, on gagnait de l'argent par le fait que posséder des terres, qu'on louait, récupérait par l'impôt sur le travail des autres. Mais cette valeur travail n'avait aucun sens. Donc le travail est en fait à cette époque une réalité qui occupe une place assez importante dans la vie quotidienne de la majorité des gens, mais il n'est pas particulièrement codifié, il n'est pas particulièrement mis en avant. Le capitalisme va changer la donne à plusieurs niveaux. Le travail est désormais commun aux dominants et aux dominés. La fortune des bourgeois est liée au travail. Celui-ci n'est plus dégradant. Ils travaillent, les bourgeois eux-mêmes travaillent pour faire fonctionner leur commerce, leurs industries, etc. Mais surtout, cette fortune va dépendre en grande partie du travail des autres, des salariés. Plus directement encore que dans le féodalisme. Pourquoi plus directement ? Parce que le capitalisme se caractérise par le fait que les moyens de production sont privés. C'est ça la définition en fait centrale du capitalisme. Propriété privée des moyens de production. Donc les moyens de production, les outils, les usines, ça inclut même les matières premières d'ailleurs, dans une certaine mesure. Ces moyens de production appartiennent à un propriétaire ou une propriétaire qui investit pour les mettre en état de fonctionner. Mais ensuite, ces moyens de production sont utilisés, sont mis en fonctionnement par des travailleurs et des travailleuses qui produisent de la valeur. Et cette valeur va revenir au capitaliste qui rétribue à son tour la force de travail par le versement d'un salaire. Et ce salaire, bien évidemment, n'est pas l'équivalent de la richesse produite, sinon l'employeur ne ferait pas de plus-value. Voilà, le mécanisme de la plus-value qui a été mis en évidence par Marx au XIXe siècle, que je présente un peu rapidement là, c'est qu'il y a évidemment une différence entre la richesse produite par un travailleur et le salaire qu'il récupère. Et Marx montre qu'en fait le salaire n'est pas du tout le prix du travail, mais le prix de la reformation de la force de travail par le travailleur. En fait, le capitaliste donne la somme minimale qui permettra au travailleur de reconstituer sa force de travail. Il ne paye pas son travail, mais la reconstitution de la force de travail. Bon, peu importe, c'est pas le cœur du problème ici, mais dans ce contexte, il devient évidemment crucial de valoriser le travail. Il n'est plus mal vu, il est glorifié et central, puisqu'il est à l'origine de la création de la valeur, qui est au cœur, évidemment, du système capitaliste, l'accumulation de valeur. Auparavant, l'idée de produire toujours plus était tout à fait étrangère aux classes dominantes, et même aux classes dominées, qui se contentaient de produire ce qu'il fallait pour survivre. Personne n'en aurait vraiment vu l'intérêt. Alors, il s'est passé ici une curieuse inversion anthropologique. On peut la mesurer, cette inversion anthropologique, aussi en observant les récits des différents grands voyageurs du XVIIIe et XIXe siècle, les ancêtres de l'ethnographie, de l'anthropologie du XXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'au contact des peuples qu'ils appelaient primitifs, beaucoup s'étonnent de les voir, au fond, si peu travailler. Notamment, il semble inconcevable de se limiter à produire strictement ce dont on a besoin. Ça a beaucoup intrigué, comme ça, l'anthropologie, ce phénomène-là. Et en 1972, Marshall Salins, un anthropologue états-unien, a montré dans son livre « Âge de pierre, âge d'abondance », c'est le nom du livre, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, qui étaient encore observables dans certaines régions du monde au XXe siècle, sont en réalité non pas des sociétés de pénurie, de misère, limitées, mais plutôt des sociétés d'abondance pour leurs membres, et qu'en fait l'absence de productivité et de rentabilité y a résulté d'un choix plus que d'une contrainte ou d'une incapacité. Alors c'était changement total de, de vision des choses, hein, ce livre, parce que pendant très longtemps, on a considéré que précisément cette société était primitive au sens où elle n'avait pas encore accédé à cette idée de travailler davantage pour produire davantage et pour ainsi obtenir un niveau de vie plus élevé. Ce que Salins montre, c'est que en réalité, elles ont fait le choix, ces sociétés, de ne pas générer toujours plus de richesses, mais de générer simplement ce qu'il fallait pour vivre correctement, tout simplement. Alors là, on se trouve face à une question assez intéressante, c'est la suivante. Est-ce que finalement, la recherche de la croissance à tout prix, et du coup la valorisation du travail qui en est sa condition, parce qu'il n'y aurait pas de croissance à tout prix sans un travail rigoureux et régulier, est-ce que cette recherche de croissance serait donc une donnée universelle? Visiblement pas. Et donc, quelle place aurait-on raison d'accorder au travail?
Travailler plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs, je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sud, eh?
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la glande. Travailler sans interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque. Ce sera un pays sans banque. Et tant qu'ils sourront à bras joints, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis, encore moins faire taffer à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là à vivoter au soleil sans préoccuper. Au soleil sans préoccuper. Au soleil sans préoccuper.
Les Ofris Maracas n'aiment pas travailler assis, debout, allongé, à genoux, quoi qu'il en soit. Ils n'aiment pas travailler. Alors peut-être qu'on pourrait réfléchir au sens qu'on donne au mot travailler ici. On en reparlera davantage le mois prochain. Mais en tout cas, c'est leur décision radicale. Alors on vient de voir que la centralité accordée au travail en tant que valeur dans la société était en grande partie liée à un contexte historique et économique. Et on pourrait en fait formuler l'hypothèse suivante. On donne une valeur morale au travail, on le met en avant dans la société, précisément à partir du moment où il ne va plus de soi de travailler, en tout cas de la manière dont on l'entend. Alors j'essaie de t'expliquer un peu ça. Avant l'avènement du capitalisme, l'idée de produire toujours plus ne vient pas à l'esprit. Et le travail est donc réalisé dans la mesure exacte où on ne peut pas s'en passer. Mais dès lors qu'on produit pour autre chose que la satisfaction des besoins, que l'on produit au-delà de cette satisfaction, il faut une justification autre. Et c'est peut-être ici que vient se brancher la morale du travail commune à tous les systèmes productivistes. Petite parenthèse, hein, ici, il ne faut pas croire que ce serait une spécificité du capitalisme au XXe siècle de mettre en avant la valeur travail. Les systèmes socialistes en ont peut-être fait encore plus dans cette glorification du travailleur, puisqu'ils étaient supposés d'ailleurs être au service de ces mêmes travailleurs. Pour prendre un exemple de ça, dans les années 1960, la révolution cubaine avait créé une loi sur l'oisiveté, c'était le nom qu'elle avait donné à cette loi, qui punissait le fait de ne pas travailler. Donc tous les systèmes productivistes ont partagé, à un moment ou à un autre, cette morale du travail, et elle a été finalement d'autant plus nécessaire que le progrès technique a rendu moins vital l'effort productif. À des moments où il fallait absolument travailler pour créer des richesses, il n'y avait plus pas vraiment de besoin de mettre en avant la morale du travail. Mais dès lors que le progrès technique, les machines ont rendu le travail humain peut-être moins nécessaire, c'est là finalement que l'idée d'une morale du travail a dû être mise en avant le plus pour justifier les temps de travail, par exemple, exigés. Alors c'est quelque chose qui a été très bien vu, ça, dès les années 1930, par un philosophe qui s'appelle Bertrand Russell, et qui a écrit un petit livre absolument délicieux, je vous en recommande la lecture, qui s'appelle « L'éloge de l'oisiveté ». Et il pointe avec une grande malice ce paradoxe d'une société qui exige un temps de travail énorme alors que finalement elle pourrait ne plus l'exiger. Et il le fait à partir d'un exemple assez fameux qui est l'exemple de la production des épingles.
Supposons qu'à un moment donné, un certain nombre de gens travaillent à fabriquer des épingles. Ils fabriquent autant d'épingles qu'il en faut dans le monde entier en travaillant, disons, 8 heures par jour. Quelqu'un met au point une invention qui permet au même nombre de personnes de faire deux fois plus d'épingles qu'auparavant. Bien. Mais le monde n'a pas besoin de deux fois plus d'épingles. Les épingles sont déjà si bon marché qu'on en achètera guère davantage, même si elles coûtent moins cher. Dans un monde raisonnable, tous ceux qui sont employés dans cette industrie se mettraient à travailler 4 heures par jour plutôt que 8 et tout irait comme avant. Mais dans le monde réel, on craindrait que cela ne démoralise les travailleurs. Les gens continuent donc à travailler 8 heures par jour. Il y a trop d'épingles. Des employeurs font faillite. Et la moitié des ouvriers perdent leur emploi. Au bout du compte, la somme de travail est la même dans ce cas-ci que dans l'autre. Sauf que la moitié des individus concernés en sont réduits à l'oisiveté totale, tandis que l'autre moitié continue à trop travailler. On garantit ainsi que le loisir, par ailleurs inévitable, sera cause de misère pour tout le monde, plutôt que d'être une source de bonheur universel. Peut-on imaginer plus absurde ?
Alors c'est un superbe texte, hein, lu ici par le comédien Dominique Ronvaux, dans sa pièce intitulée justement « L'éloge de l'oisiveté », qui est directement inspirée du livre de Russell, et je vous recommande le visionnage, c'est disponible sur internet, je le mettrai dans la description de l'émission, je vous rappelle que sur la page de l'émission vous pouvez retrouver toutes les sources que je cite, voilà. Et là c'est particulièrement recommandé de regarder cette petite pièce de théâtre. Alors cet extrait ici, il pointe le lien entre le travail et la morale, avec donc cette idée que finalement, dans un monde un peu plus raisonnable, on ne mettrait pas comme ça en avant le travail, on répartirait le travail, et on ferait en sorte que finalement la même richesse, quantité de richesse soit produite, mais qu'elle soit simplement redistribuée un peu différemment. Voilà. Mais Russell pointe un élément intéressant, c'est que dans le monde réel, comme il dit, on craindrait que cela ne démoralise les travailleurs. Les faire travailler uniquement 4 heures par jour, ce serait les démoraliser, au sens où ce serait leur donner trop de temps libre, finalement. On retrouve hein, cette idée d'un lien entre travail et morale dans l'idée que l'oisiveté est mère de tous les vices, hein, idée dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, évidemment, il faudrait qu'on s'interroge sur les sens exacts des mots. Ici, on superpose peut-être activité et travail salarié, comme si travailler de cette façon était la seule manière d'être actif. Et puis, on associe peut-être un peu vite oisiveté et inaction. Alors ça, ce sera l'objet de la prochaine émission, de faire vraiment le point rigoureusement sur cette notion de travail. Hein, on pourra se demander finalement si la morale du travail, effectivement, elle masque assez mal les impératifs économiques qu'elle sert, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rejeter le travail en tant que tel. C'est ça qu'on verra dans le détail. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est effectivement, en tout cas donner des pistes pour essayer de comprendre pourquoi le travail salarié avait une telle importance dans notre société, pourquoi il était tellement mis en avant, comment ça s'était constitué historiquement. Bon, le résultat auquel on arrive, c'est qu'effectivement, il n'y a peut-être pas de nécessité au sens logique du terme, c'est-à-dire ce qui ne pourrait pas être autrement. Il n'y a peut-être pas de nécessité à donner une telle centralité au travail dans la société. Par contre, on reviendra évidemment dans la prochaine émission sur le fait que l'activité, peut-être, est quelque chose de vital pour les humains. Mais le fait de faire se correspondre activité et travail, au sens qu'on lui donne dans notre société, c'est là peut-être qu'il y a petit raccourci. Voilà. Bon, pour finir, je vais laisser la parole à Dominique Rouvaux, encore une fois, dans la suite de son spectacle, qui donne une illustration assez bonne de ce que j'ai souligné il y a quelques minutes.
Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ?» Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Peut-on imaginer plus absurde ?
Montez dans la barque des livres.
Dans la barque des livres, ce mois-ci, un ouvrage en rapport direct avec le thème de l'émission et de la prochaine également. Puisqu'il s'agit du livre intitulé « Éloge du carburateur » par le philosophe états-unien Matthew Crawford. Alors c'est pas vraiment un livre récent, puisqu'il a été publié en 2009, en 2010 pour la version française, aux éditions La Découverte. Donc « Éloge du carburateur » avec comme sous-titre « Essai sur le sens et la valeur du travail ». Alors c'est intéressant pour nous parce que c'est un livre écrit par un philosophe qui a la particularité d'être mécanicien moto. Alors il est à la fois philosophe et mécanicien moto, mais son activité principale est celle de réparer les motos. Alors c'est intéressant parce que du coup il écrit du point de vue de celui qui travaille et qui fait un travail qu'il aime profondément. Et qui l'amène donc à vraiment avoir des réflexions tout à fait intéressantes sur la manière dont le travail manuel en particulier permet d'avoir aussi une dimension intellectuelle assez complète. Et ça ramène à des considérations qu'on évoquera la prochaine fois sur le rôle du travail dans le processus même finalement de devenir un sujet, quoi, de devenir un sujet actif. Alors, ce sera vraiment intéressant de reprendre les analyses de Crawford, et je vous recommande vraiment cette lecture qui est stimulante, qui est accessible, même s'il manie des concepts parfois un peu difficiles, il les rend vraiment très accessibles et il les éclaire toujours, effectivement, avec des exemples tout à fait concrets liés à sa pratique de la mécanique. Voilà. Donc même si on ne connaît rien à la mécanique, on peut tout à fait trouver du plaisir dans cette lecture de l'éloge du carburateur. Et c'est sur le sens et la valeur du travail de Matthew B. Crawford aux éditions La Découverte. Et on se retrouve donc le mois prochain pour continuer notre réflexion, en particulier à partir des analyses de Crawford, sur le travail qu'on verra cette fois-ci au sens de l'activité. On se retrouve le mois prochain pour ça.
Retrouvez Au fil de l'eau une fois par mois, le mardi matin en première diffusion, en replay le samedi suivant, et sur le site de Pigoui Radio à l'heure qui vous chante. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au fil de l'eau @pigouiradio.fr.